Assez. Pour le service, la mécanique et vos pneus, des harnais, c'est juste parfait.
Voici le témoignage d'un auditeur satisfait.
Salut, mon nom est Jean-François. Je suis originaire du Sud. En arrivant ici, on m'a dit, il y a une certaine morosité dans les radios de Québec. Fais-toi plutôt une playlist. Diable que j'étais déçu. J'ai accroché par mégarde le bouton de ma radio. Boulevard 102.1 tournait une musique endiablée tout en mettant de l'avant de savants animateurs aux sujets les plus dégourdis les uns que les autres. Merci, Boulevard 102.1.
Essayez Boulevard, vous ne le regretterez pas. Marceau le soir, la meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau le soir. Le soir. Le soir.
Salut, bonsoir, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1 à Québec, en espérant que vous ayez passé une super de belle journée. J'imagine que c'est le cas, puisque la température était de toute beauté. Et savez-vous quoi, j'ai une bonne nouvelle pour vous, et c'est rare, les bonnes nouvelles le lundi. C'est que toute la semaine, Météo Média ainsi qu'Environnement Canada nous annoncent de la belle température. Par quoi j'entends par belle température? Ben, c'est du soleil avec des températures qui sont pas trop froides, pas trop chaudes. Je regarde le topo pour ce qui est d'aujourd'hui. On a atteint 17 degrés à peu près pour aujourd'hui. Demain 19, mercredi 21, jeudi 21, vendredi 22, samedi 22 et dimanche 22 degrés. Puis pas de probabilité d'averse à l'horizon jusqu'à lundi prochain. Donc, on va les prendre. C'est les derniers balbutiements de l'été, puis on s'en va tranquillement vers l'automne. Et peut-être, l'hiver qui s'en vient à grands pas. Ce soir, comme à chaque lundi, on a le plaisir de s'entretenir avec Maître Marc Bellemare, qui est au bout du fil, on pourrait dire ça comme ça. Maître Bellemare, bonsoir.
Oui. Salut, ça va bien?
Ça va très bien. J'espère que vous avez passé un beau week-end.
Oui, écoute, franchement, là, on a un automne, c'est l'équinoxe en fin de semaine. Hein?
Oui.
Je pense que c'est le 21 septembre. Alors, en tout cas, j'ai entendu ça ce matin. Je ne sais pas si c'était dans une zone radio concurrente.
C'était le 23, l'équinoxe.
Ah, c'était le 23?
Oui, normalement, c'est dans le coin du 21. Là, c'était le 23.
Bon, en tout cas. Alors, regarde, on a du beau temps, puis on nous en annonce encore toute la semaine. Puis je vais te dire, c'est difficile de rester en dedans parce que on sait bien qu'on rentre dans le congélateur tranquillement.
Oui, exact.
Quand tu regardes le soleil qui se couche à 6h30, 7h, là, tu dis « Oh, que c'est ça ». Mais ça passe vite, hein. C'est là qu'on voit que le temps fuit.
Exact.
Parce que les années sont courtes. Il me semble qu'hier, il faisait clair jusqu'à 9h. Aujourd'hui, ben, c'est rendu 7h, 7h15, là, on ne voit plus grand-chose. On commence à allumer lumière, on commence à conduire en noirceur, puis là, c'est déjà tout un processus d'adaptation à faire. Puis toi qui es en moto, là, c'est la même chose. Hein? Commencer à conduire le soir, on est moins habitué à ça.
Êtes-vous plus un gars d'été ou un gars d'hiver ou un gars d'automne, tiens?
Ah, ben, écoute, en autant que le ciel est bleu puis qu'il fait soleil, moi, ça va.
Tout simplement.
L'automne, j'aime bien. Les coloris, c'est magnifique dehors. Surtout à Québec, on est gâtés là-dessus. Il y a beaucoup de verdure, beaucoup d'arbres autour, beaucoup de parcs. Donc, c'est très beau l'automne, mais en même temps, moi, c'est le froid. Là, que c'est sûr que c'est... Je suis pas un fan de froid. J'ai déjà fait beaucoup de sports d'hiver quand mes enfants étaient plus jeunes, du ski, du snow, du patin, tout ça. Mais là, avec les enfants qui sont partis, j'en fais un peu moins. Alors, dans ce temps-là, on est moins porté... à aimer le froid, n'est-ce pas?
Hey, Maître Bellemare, je voulais vous parler de ce sujet-là en début parce que ça fait jaser tout au long de la journée. Là, on réclame la démission du président de la Chambre des communes, qui est aussi député de Nipissing-Témiscamingue, Anthony Rota, lui a invité un soldat qui a combattu au front. Et on lui a dit que c'était un fier Canadien et un ancien combattant. On était tous fiers de lui. Il avait 98 ans. Le problème, c'est que on n'avait pas regardé pour qui il avait combattu, puis l'histoire nous a démontré qu'il a combattu pour les méchants, donc il a contribué à éradiquer 6 millions de Juifs sur la Terre en quelques mois. Yaroslav Onka, 98 ans, qui est un résident de la circonscription de M. Rota, qui l'avait invité, puis qu'on accuse d'être membre d'une unité nazie ukrainienne. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il était membre de la première division ukrainienne, donc également connu sous le nom de la division SS Galicie. Comment ça peut arriver, ça, en 2023, alors que juste en tapant le prénom et le nom de famille de l'homme, on le voit habillé, costumé dans ses vêtements de l'époque en Asie? Comment ça peut arriver que tout le monde à la Chambre des communes se lève et applaudisse ce gars-là sans que personne ait le réflexe de vérifier qui était cette personne-là et pour qui il combattait réellement? Parce que pour n'importe qui sait qu'est-ce qui s'est passé à la Deuxième Guerre mondiale, Maître Bellemare, on sait que l'Ukraine n'était pas nécessairement du bon bord, là. C'était des nazis.
Oui, c'est ça. Mais tu sais, les politiciens, parce que là, c'est le président de la Chambre, puis c'est pas dans sa qualité d'homme politique qui fait ça, parce que le président, il était supposé être apolitique, mais il demeure que c'est quand même un député. Et c'est quelqu'un de sa circonscription. Fait que tu dois t'assurer, tu dois faire des vérifications minimales. Mais c'est toujours, tu sais, en politique, là, les photos, là. Tu sais, tu fais une activité bénéfice, à un moment donné, il y a une espèce de gars qui vient à côté de toi, il veut une photo, là. Tu sais, mais le gars, il a fait 8 ans de prison, il a tué 2 personnes, il a 14 récidives d'alcool au volant, mais ouais. Tu sais pas tout le temps les gens qui vont te prendre en photo. Mais ça, se faire prendre en photo, on peut comprendre parce qu'il y a beaucoup de monde qui va aller prendre en photo avec des politiciens. Puis des fois, ils vont s'en servir à des fins pas tout à fait correctes. Mais dans ce cas-ci, l'affaire fait le tour du monde, là. Parce que tout le monde sait, partout dans le monde, qu'il y a une guerre en Ukraine. Tout le monde sait que Zelensky est au Canada, sa première visite à la Chambre des communes, sa première visite en sol canadien. Donc, c'est très couru. Et quand tu dis que si un homme en parle, ça veut dire que tout le monde en parle. Et le président invite effectivement ce gars-là. On l'applaudit, il a 98 ans, puis normalement, il devrait être en prison. Ou il devrait être 6 pieds sous terre, parce que pour faire ce qu'il a fait, il ne mérite pas de vivre, ouais. En tout cas dans mon livre à moi. Et on l'applaudit dans l'enceinte démocratique la plus prestigieuse du pays, c'est-à-dire la Chambre des communes. Alors, moi, je pense qu'il faut qu'il démissionne. C'est très, très clair que ce gars-là n'a plus aucune crédibilité. Et même comme député, ça force qu'il garde sa job, parce que manquer de jugement à ce point-là, et lui, il représente une circonscription, probablement de 60-65 000 personnes. Puis là, il vient déshonorer sa circonscription, parce que tout le monde sait qu'il y a un ex-nazi, qui est peut-être encore nazi d'ailleurs, parce que tu perds pas nécessairement ton étiquette nazi parce que tu vieillis.
Jusqu'en 2015, cet homme-là a travaillé pour un site web qui parlait justement du nazisme et à quel point c'était pas si pire que ça, ce qu'il avait mis en place, alors que c'est tout à fait ignoble. Puis oui, effectivement, la grandeur de la planète actuellement, le Canada a de l'air un peu con, mais en même temps, de voir que toutes les autres parties se sont levées aussi pour acclamer cette personne-là. Je veux dire, moi-même, qui n'est pas un fin connaisseur de la Deuxième Guerre mondiale, mais je savais qui étaient nos ennemis, je savais qui étaient nos amis, j'aurais procédé à une petite vérification. Un peu ukrainien, j'aurais tapé son prénom et son nom de famille, et savez-vous quoi? Je ne me serais probablement pas levé pour applaudir cet individu-là, et j'aurais peut-être fait tout en mon pouvoir pour avertir tout le monde en disant « Attendez un peu, là, vous êtes en train d'applaudir un nazi. Cet homme-là, vous le voyez, là, il est debout, il est en train de recevoir les applaudissements de tout le monde. Puis là, il envoie comme un signe du cœur, là, tu sais, merci beaucoup. Et t'as Zelensky, qui est un individu à surveiller, là, quoi que les gens puissent en penser. Tu sais, je pense que Poutine et Zelensky, c'est deux individus en qui on ne peut pas nécessairement avoir confiance. Mais bon, l'Amérique juge que Zelensky, faut l'aider comparativement à Poutine. Donc, on a l'impression que Zelensky, c'est un gentil. Mais Zelensky dirige un des pays les plus crosseurs de la planète. Il y a de la corruption comme pas possible. Puis hier, bien, on a peut-être vu le vrai visage de Zelensky. Puis peut-être que les gens vont se rendre compte que Poutine ou Zelensky, les deux, on devrait les considérer au même degré, c'est-à-dire des personnes à surveiller le plus possible.
Mais là, ce qui arrive, c'est que toute la propagande de Poutine en Russie, c'est autour du nazisme ukrainien. Quand il a envahi la Ukraine, Poutine, son argument, c'était de dire qu'il allait combattre les nazis ukrainiens, parce qu'il disait qu'en Ukraine, c'était un pays nazi, et qu'il y avait des nazis très bien organisés en réseau, puis qui militaient, puis qui voulaient propager une idéologie fasciste et antidémocratique, etc. Alors là, je peux te dire une affaire, ça, cette affaire-là, c'est sûr que là, ils vont rapprocher Zelensky, de ce gars-là, il n'a peut-être jamais parlé, je ne sais pas. Là. Je ne sais pas s'il y a eu des contacts entre cet ex-soldat-là puis ce combattant-là et Zelensky. Je ne suis pas sûr qu'ils se sont parlé. Peut-être que oui. Peut-être qu'il y a eu des échanges, peut-être qu'il y a eu des rapprochements. Si Zelensky a rencontré les petits hockeyeurs ukrainiens qui étaient à Québec, peut-être qu'il a rencontré ce gars-là, mais peu importe. Il reste que ça crée une espèce de promiscuité entre les deux. Puis, il y a des gens qui veulent pas aider Zelensky, qui ne le croient pas, puis qui veulent le discréditer, puis il y en a beaucoup, qui vont faire des rapprochements, puis qui vont dire, voyez-vous, on vous l'avait dit, Zelensky, c'est un nazi, parce qu'il y a un ami nazi, puis il a applaudi un gars à la Chambre des communes à Ottawa. Mais donc, ça va nuire, évidemment, à la cause de Zelensky. Ça va nuire aussi au Canada, qui a l'air d'un ticoune dans les circonstances pour ne pas avoir fait les vérifications minimales. Son président de la Chambre des communes, mais aussi ça va nuire au gouvernement Trudeau dans un certain sens parce que c'est quand même lui qui est au pouvoir. Tu sais, c'est au niveau protocolaire, c'est pas le président de la Chambre des communes qui reçoit Zelensky, c'est le gouvernement du Canada, c'est le premier ministre Trudeau qui va l'accueillir à l'aéroport, puis c'est lui qui fait toute la... qui essaie de tirer un profit politique. Puis là, les bourdes au plan international s'accumulent parce que la semaine passée, il se faisait rentrer dedans l'ONU pour son piètre bilan environnemental. Après ça, tu as eu l'assassinat du Sikh dans l'Ouest canadien.
Avec l'Inde.
Qui fait en sorte que Trudeau s'est brouillé avec l'Inde. Alors là, je ne sais pas c'est qui écrivait. Je pense que c'est Emmanuel Latraverse qui écrivait une chronique la semaine passée dans le Journal de Québec en disant « Trudeau se cherche un ami parce qu'à un moment donné, il est tellement en brouille avec tout le monde, il est en brouille avec la Chine,
ouais.
Ça va pas bien pour notre ami Trudeau. »
En même temps, c'est une tactique.
International, c'est un vrai désastre. On fait vraiment rire de nous autres.
Exact. C'est une tactique que les gens qui travaillent en politique connaissent depuis longtemps. Là. Quand ça va pas bien nécessairement à l'interne pour ton parti puis que tu es au pouvoir, tu dois essayer de trouver un ennemi ailleurs pour rassembler tout le monde autour de toi. C'est une tactique qui est vieux comme le monde. Là. Puis dans les médias, on connaît cette tactique-là puisqu'elle nous est enseignée à l'école. Quand ça va pas bien dans ton parti, quand ça va pas bien dans ton gouvernement, quand ta population manque de respect pour toi, trouve-toi un ennemi puis essaie de passer comme étant un héros et les gens vont se rassembler derrière toi. Actuellement, ce qui arrive là, c'est une catastrophe parce que autant ici au Canada, on manque de respect envers Justin Trudeau parce que son administration ne fait pas le travail. Puis à l'international, bon, on commence à être la risée de la planète au grand complet. On est rendu à applaudir un nazi. Comme vous l'avez dit, ces images-là font le tour du monde. C'est rien pour aider la vision des gens par rapport au Canada. C'est un peu gênant. Puis, tu sais, j'ai toujours été très fier d'être Canadien, toujours été très fier d'être Québécois. Mais savez-vous quoi? Peut-être que dans les prochains mois, si je voyage à l'étranger en Europe, là, je vais dire que je viens du Québec plutôt que du Canada.
Ouais. Ben moi, ça fait longtemps que je le dis. Là. Alors, bienvenue dans le club. Mais pour revenir à notre ami Zelensky, là, moi, j'ai l'impression que son voyage a été terni à cause de ça. Puis, il commence à avoir de la misère, un peu à avoir du financement. C'est sûr que Biden, il a donné de l'argent, mais les Républicains commencent à trouver que ça coûte cher. Puis cette guerre-là, qui devait durer quelques mois, finalement s'enlise. On est quasiment rendu à 2 ans, là, 500 quelques jours. Et là, on ne voit plus le bout. Là. Et c'est un peu triste, parce que moi, je pense qu'effectivement, l'Occident doit appuyer l'Ukraine là-dedans, parce que sinon, Poutine va se permettre n'importe quoi, puis il va envahir un continent au complet. Et l'Europe de l'Ouest est très inquiète. Puis il faut freiner Poutine à tout prix, mais en même temps, ce genre d'affaires-là n'aide pas, évidemment. Puis on se retrouve... Mais tu sais que le président de la Chambre des communes, il est quand même élu par des députés. C'est pas... Le premier ministre est élu par le peuple à la tête d'un parti politique, mais c'est un député de la Chambre des communes qui est désigné par l'ensemble des députés. Fait que s'il n'y a plus la confiance des députés, puis là, le bloc... Puis le NPD a retiré sa confiance. Les conservateurs, c'est peut-être une question d'heure ou de jour, mais en tout cas, s'il n'y a pas la confiance de deux partis quand même importants à la Chambre des communes, là, le Bloc puis le NPD, c'est pas rien, c'est des partis importants. Ils n'ont pas 300 députés, mais ils ont quand même du monde, et puis ils sont importants, ils ont un droit de parole, ils ont un droit d'intervenir dans un débat. Moi, j'ai l'impression que Il devrait partir, il devrait laisser sa place. Ça ne l'empêche pas d'être député, comme je te dis, de siéger à la Chambre des communes, mais je pense que le président va avoir la confiance des gens. Sinon, c'est un bordel, ça devient une grosse garderie, tout le monde s'engueule, puis il perd il perd le contrôle de ses troupes, ce qui n'est déjà pas facile.
Quand vous étiez en politique, est-ce que vous faisiez attention aux gens que vous aviez côtoyés dans le temps? Est-ce qu'il y a une équipe qui se chargeait de vérifier les gens qui voulaient approcher le ministre de la Justice?
Bien, il y a toujours un processus de vérification, oui. On n'accepte pas n'importe qui, c'est certain. T'as toujours, au cabinet, tu as toujours des gens qui vont s'occuper de ça, le chef de cabinet. Mais tu sais, en politique, on connaît beaucoup de monde. Puis normalement, les gens qui viennent te rencontrer comme ministre, c'est des gens qui sont connus. Tu sais, ça peut être un chef syndical, ça peut être un président d'une corporation professionnelle, ça peut être un autre élu, ça peut être quelqu'un du parti. Normalement, on connaît les gens. C'est rare qu'un ministre va accueillir dans son bureau un parfait inconnu, Joe Biden, qui se présente, qui dit « Moi, je veux voir le ministre. » Pas de même, ça marche. Il y a tout un processus. Et moi, ça ne m'est jamais arrivé d'avoir quelqu'un d'intimidant ou de gênant au plan politique. Mais je n'ai pas été là longtemps non plus, il faut dire. Mais normalement, on sait à qui on a affaire. Puis si tu reçois quelqu'un dans ton bureau, c'est quelqu'un qui est significatif et qui peut avoir un impact important sur des décisions que tu as l'intention de prendre. Ou bien il va appuyer un projet de loi, ou bien il va avoir une revendication connue, ou bien c'est une espèce de comité de travail, mais c'est toujours des gens bien en vue, là, connus, qui sont choisis. Fait qu'il y a déjà un processus de sélection ou de nomination, si tu veux, qui a déjà été suivi pour faire en sorte que cette personne-là se retrouve dans ton bureau. Fait que... Mais dans ce cas-ci, lui, c'est un militaire qui avait invité, un militaire de son comté, qui n'était pas particulièrement, tu sais, c'était pas un représentant d'une brigade ou c'était pas un militaire qui avait été connu ou qui était, tu sais, qui avait déjà été, dont on avait déjà célébré les exploits. Mais tu sais qu'aux États-Unis, c'est une pratique connue. Hein? Tu vas au hockey dans n'importe quel stade américain, puis très souvent, au début du match, on va te présenter un militaire.
Ouais.
Puis même au Canadien de Montréal, il y a quelques années, je ne sais pas si ça se fait encore, mais à tout bout de champ, au début d'un match, là, on présentait le caporal un tel du 22e régiment, puis là, tout le monde se levait pour applaudir. On avait comme une forme de reconnaissance face aux militaires qui est en service puis qui assure la défense de notre pays. Aux États-Unis, c'est très, très fréquent. Alors là, il a probablement voulu faire ça parce que Zelensky, c'est un militaire en quelque part, c'est lui qui dirige l'armée. Les hautes armées ukrainiennes. Il arrive quasiment habillé en soldat en plus, en vert. Tu as vu que c'est pas. Il n'y a pas veston-cravate. Lui, là, il arrive comme un militaire. Fait que là, il a pensé, lui, qu'il y a un autre soldat que ça pouvait peut-être fitter dans les préoccupations.
Moi, ça m'en dit long sur les connaissances générales des gens qui nous gouvernent. Honnêtement, j'aurais fait le lien assez rapidement. Là, Zelensky, il était au courant de la personne qu'on était en train d'applaudir, puis il a continué de l'applaudir. Il peut pas nier qu'il connaît pas ce qui s'est passé en deuxième, lors de la Deuxième Guerre mondiale, mais cela dit, on va passer à un autre sujet.
Ouais, savait quoi, c'est plus ou moins important à ce stade-ci? Yannick, c'est pas important de savoir. On peut déplorer le fait qu'il y a quelqu'un qui n'a pas fait sa job.
Mais je suis toujours d'accord avec vous la plupart du temps.
Qui a fait quoi? Aujourd'hui, ça, c'est plus ça. Là. Ouais, aujourd'hui, c'est qu'on a l'air d'une gang de tweets.
Mais je suis toujours...
C'est notre réputation qui est emportée.
Là-dessus, je suis d'accord. Là où je ne suis pas d'accord, c'est que maintenant, là, on a vu Zelensky applaudir un nazi, sachant qu'il était un nazi. Et là, ça va nous dire juste une affaire. Ça peut nous dire que Zelensky, on ne peut pas y faire confiance au même titre qu'on ne peut pas faire confiance à Vladimir Poutine. La seule et unique raison pour laquelle on aide Zelensky, c'est parce que les Américains l'aident puis on juge que Poutine ne doit pas intervenir en sol ukrainien. Mais les deux sont à watcher. L'Ukraine, c'est un des pays les plus corrompus au monde. C'est documenté. C'est dans l'histoire. C'est des nazis. En tout cas, plus aujourd'hui, mais ils ont déjà été nazis. Puis de voir l'autre qui envoie comme un signe de poing, moi, ça m'a fait mal au cœur qu'il y ait ces deux personnes-là face ça au Canada, puis qu'on les célèbre tout en étant dans l'erreur. Là. On les célèbre. Je trouve ça atroce, Maître Bellemare. Puis je pense aux Juifs aussi qui ont vu ça aller, les Juifs canadiens, là. Eux autres doivent halluciner. Ils doivent se dire où est-ce qu'on est rendu. C'est quoi c'est pays ça. Un peu bizarre.
Notre ami Trudeau qui est traversé sur les minorités... Sikhs, juifs et autres, ça va pas bien pour lui, mais en tout cas, on voit bien qu'on a affaire à un gars qui est approximatif, puis Trudeau, ça a toujours été un peu son problème, hein. C'est toujours des sourires, puis des babayes, puis des selfies, mais en dessous de ça, on voit qu'il n'y a pas une grosse rigueur.
Tant qu'il paraît bien, il est content. S'il paraît mal, il est mécontent. Hey, j'ai des félicitations à faire à la Commission des libérations conditionnelles du Canada. Je pense que c'est la première fois depuis qu'on fait affaire, vous et moi, qu'on a des chroniques là, depuis toutes les années. C'est la première fois que je félicite la Commission des libérations conditionnelles du Canada qui ont refusé d'accorder la liberté au père de la fillette de Granby qui était décédée dans des circonstances là, assez troublantes en 2019. Lui, il voulait une semi-liberté parce qu'il avait écopé de 4 ans de prison. Finalement, on lui a dit « Non, non, tu vas rester en prison. » Je vous rappelle que cette jeune fille-là est décédée à l'âge de 7 ans. Elle avait été découverte inanimée sur le plancher de sa chambre à coucher. Son corps était recouvert des pieds à la tête de rubans adhésifs. Puis la veille de sa mort, elle avait tenté de s'enfuir chez un voisin complètement nu. Et le père et sa conjointe l'avaient placée au sous-sol en la tapant avec du ruban adhésif. Et le lendemain, la petite fille a été retrouvée sans vie. Lui avait écopé de 4 ans de prison. Elle avait écopé d'une sentence à vie avec probabilité d'être libérée après 13 ans. Elle a 39 ans. Lui, aujourd'hui, a 34 ans. Puis la Commission des libérations conditionnelles du Canada a dit à ce gars-là, « Non, tu vas continuer de faire ton 4 ans de sentence. » Moi, je faut que ce gars-là reste en dedans le plus longtemps possible. 4 ans, c'est pas assez pour cette personne-là.
Ouais, puis d'autant plus que tu sais que la Commission fédérale de libération conditionnelle a très souvent été sur la sellette. Je sais pas si tu avais lu à l'époque le livre de Yves Thériault, qui est une référence dans le domaine, qui s'appelle « Tout le monde dehors », là, qui expliquait un petit peu les processus de la Commission des libérations conditionnelles du Canada, ce qui avait permis, je ne sais pas si tu te souviens, à Mario Bastien, qui avait tué le petit Alexandre Livernoche, là, un petit gars là, qui est une espèce de pédro là, qui avait tué le petit gars, et ça a fait l'objet de recours et de quantité d'enquêtes. Et là, on s'était aperçu que la Commission des libérations conditionnelles, c'est un peu porte tournante, tu rentres puis tu sors. Puis... Alors, eux autres, ils gèrent un certain nombre de critères pour libérer les individus, les gens qui sont condamnés à des peines. Et souvent, c'est le risque acceptable pour la société. On ne laisse pas sortir des gens parce qu'il n'y a aucun risque. Moi, je pense que ça devrait être risque zéro. T'sais. On ne laisse pas sortir les gens en libération conditionnelle parce qu'il n'y a pas de risque. On les laisse sortir parce que ce n'est pas un risque inacceptable pour la société. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens en liberté aujourd'hui qui sont considérés comme étant à risque de récidive, mais à risque acceptable. Alors ça, c'est le Canada. T'sais, aux États-Unis, tu n'as pas ça. Là. Tant que tu constitues le moindre risque, tu restes en dedans. C'est pour ça que les prisons sont pleines. Mais ici, au Canada, c'est le contraire. Alors, que pour ce gars-là soit gardé en dedans, je vais te dire, il faut vraiment qu'il présente un très, très fort risque de récidive et qu'il n'ait pas suivi de thérapie ou que ce soit vraiment un mauvais prisonnier. À ce moment-là, ils vont le garder en dedans. Puis il y a peut-être aussi, même si les commissaires ne le disent pas, comme dans le cas de notre ami Paul Bernardo, il n'y a pas longtemps, là, qui a été transféré d'une prison, d'un pénitencier à un autre, là, à sécurité, d'une sécurité maximum, à sécurité moyenne, je crois. La commission disait qu'elle n'était pas sensible à l'opinion publique. T'sais. Ils ne rendent pas des décisions parce que le peuple veut ou veut pas, parce que les sondages disent Bernardo, c'est un monstre ou c'en est pas, etc. Tel détenu constitue un risque ou pas. C'est l'opinion publique qui disent, eux, la Commission des libérations conditionnelles n'est pas pertinente dans les décisions qu'ils prennent. Mais je pense que le bourreau de la petite fille de Granby, peut-être que ça joue un petit peu. Les commissaires vivent quand même en société, puis ils sont conscients du fait qu'il y a peut-être un certain nombre de prisonniers de grande notoriété qui auraient commis des crimes abominables comme celui-là. Qui ne méritent pas de sortir. Alors, on dit techniquement que l'opinion publique ne joue pas, mais je pense que la crédibilité du système, ça correspond un peu à l'opinion publique et je pense que ça joue dans leurs décisions quand même.
Oui, je lisais ce que les commissaires ont mentionné, puis je vous lis une partie de l'extrait. Là. « Qu'il est préoccupant de constater que cette violence s'est déployée sur une longue période et que vous n'avez pas été en mesure d'opérer un arrêt d'agir, de constater que votre conjointe avait déjà posé des gestes violents à l'égard de votre fille et que vous avez continué de faire de l'aveuglement volontaire. » lui avait plaidé coupable à séquestration. Il avait pris 4 ans. Puis elle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est elle qui avait recouvert la bouche de la fillette de scotch tape pour l'empêcher de crier. Puis elle a été trouvée coupable de meurtre non prémédité. puis elle a été condamnée à la prison à perpète sans probabilité d'être libérée avant au moins 13 ans.
Mais on verra bien encore là. Hein. Je le dis, le système judiciaire, le système carcéral au Canada, là, c'est très ordinaire. Parce que on dit 13 ans, ouais. À un moment donné, au bout de tant d'années, il y a telle possibilité, permission spéciale du ministre, un nouveau procès, nouvelle requête, revision de la peine, bon prisonnier, on va le laisser sortir avant. Il y a tellement de possibilités que des prisonniers qui font vraiment, surtout pour des crimes graves, de type pénitencier, de condamnation pour 2 ans et plus, là,
ouais.
Les gens qui font leur temps complet là, au Canada, là, c'est une infime minorité. Tout le monde sort avant. La plupart sortent avant, c'est même marqué dans les livres. C'est pour ça que j'ai déjà dit souvent à des journalistes, moi, Yann, arrêtez d'écrire qu'il va faire 12 ans. Dites pas qu'il va faire 12 ans. Dites qu'il est condamné pour 12 ans et qu'il va probablement faire 6 ou 7. C'est ça qu'il faut dire, parce que souvent, ça fait la manchette. Hein. On dit une peine record. Ah, condamnation. Le juge décide que c'est 12 ans. Après ça, tu as les commissaires, puis les fonctionnaires, puis le directeur de la prison, puis ouais. Le médecin, puis ci, puis ça. Finalement, ils font quoi? La moitié, puis peut-être même pas. Des fois, ils font juste le tiers de la peine. Alors, bienvenue au Canada. C'est ça, notre système.
Prochain sujet, Maître Bellemare, il y a une chanson qui m'inspire. Là. C'est « Sous comme une botte ». Assis au boc, pas loin de la porte. Hey, je garde danser les Black Labels sur une vieille toune de Dee Mitchell. Est-ce que oui ou non, on a le droit d'être sous comme une botte sur un triporteur un dimanche matin, Maître Bellemare?
Hey là là, 78 ans, monsieur, je pense, hein, c'est ça. 78 ans.
Je ris, mais c'est pas drôle.
Au volant, son triporteur, mais c'est ça, l'alcool au volant, là, c'est sur les bateaux. C'est sur les triporteurs. C'est pas juste sur les véhicules standards.
Les tondeuses.
Ça peut être une tondeuse, ça peut être sur un quatre roues, ça peut être n'importe quoi. Et ça peut être aussi sur un tracteur, un véhicule de ferme. Alors, c'est ça, c'est un individu qui s'est fait pogner en état d'ébriété. Il essayait de tirer une remorque. Et à un moment donné, ça s'est passé à Québec, pas loin de chez nous, à Beauport.
Une remorque qui se met sur une voiture, Maître Bellemare. C'est important de le dire. Cette remorque-là, normalement, se met sur une voiture et lui, il a tenté de mettre ça sur un triporteur.
Ouais, c'est ça. Mais tu sais, il était un peu avant 8 heures dimanche matin. Toi, là, le dimanche matin, un peu avant 8 heures, là, t'es pas sur un triporteur, hein? T'es ailleurs ou bien tu dors ou bien donc t'es occupé à passer un beau dimanche matin. Mais lui, là, il était déjà pacté. Et là, on est un peu avant 8 heures dimanche matin. Ça veut dire qu'il a commencé à robiner de bonne heure, là. OK? Puis le monsieur, il a été amené au poste et il a perdu le contrôle de son triporteur avant. Il a terminé sa course sur le trottoir. Il aurait pu blesser quelqu'un facilement. Heureusement, c'est dimanche matin encore là. Il n'y a pas grand monde sur le trottoir, heureusement, mais lui, il était déjà sous. Et il essaierait de tirer une remorque de 4 pieds par 8 pieds. Alors, évidemment, il y a eu de la misère. Puis là, malgré ses 68 ans et ses nombreux antécédents en matière d'alcool, il a été. Puis une interdiction nationale de conduire pour plusieurs années. La police a saisi le triporteur. Il a été amené, puis il a été arrêté pour avoir conduit avec les facultés affaiblies. Il conduisait avec plus que le double d'alcool dans le sang, le double de 0.08. Alors, puis, quand même pitoyable. Hein? Quand tu dis qu'un gars, écoute, il n'est pas en forme, manifestement, mais tu sais, tu peux blesser quelqu'un avec un triporteur, tu peux blesser quelqu'un avec un tracteur à gazon. À un moment donné, si t'es pacté, tu peux frapper quelqu'un.
Ouais.
Puis les automobiles sont sur le chemin, fait qu'on les voit sur les parkings, on les voit circuler, puis on peut les éviter parce qu'on sait que la rue s'est faite pour les automobiles.
Mais il y a quelque chose que je
comprends. Un triporteur, ça peut se promener sur un trottoir, puis n'importe où, dans un cours, puis dans un parking, ça là.
Il y a quelque chose que je comprends pas, Maître Bellemare, parce que supposons qu'on se fait prendre sur un triporteur électrique, là, complètement sous, on peut être accusé de conduite avec les facultés affaiblies. Si on perd notre permis, on peut continuer de conduire ce type de véhicule-là. Là. On peut avoir un vélo électrique sans aucun problème. On peut continuer de se mouvoir, là, même si ce n'est pas un automobile. Même, il n'y a pas personne qui peut nous empêcher de conduire un triporteur.
Ben, c'est parce qu'un triporteur, c'est pas plaqué, là. Tu sais, c'est pas. On n'est pas. C'est un véhicule pour handicapés, finalement. Fait que c'est pas. En principe, tu peux te promener avec ça. T'es pas comme un 4 roues ou un 3 roues.
Parce que les policiers me disent que quand les hommes se font retirer leur permis de conduire, doivent travailler quand même. Puis les alternatives, c'est justement ça. Quand c'est possible, là, prendre un genre de véhicule électrique, que ce soit une semi-moto électrique qu'on voit sur les pistes cyclables maintenant. Ça a l'air d'un racer, là. Mais c'est, mm-hmm. c'est vraiment une moto électrique qui n'est pas plaquée. Puis cette personne-là, même si elle n'a pas de permis de conduire parce que ça l'est fait enlever en raison de l'alcool au volant, peut continuer quand même de se mouvoir en ville avec sa fameuse moto électrique qui n'est pas plaquée, là.
Oh oui, ben oui, il faut que tu te déplaces pareil. Mais tu sais, tu parlais d'un vélo électrique, ça fait quelques chroniques que tu en parles, là. Puis ça va vite, ces patentes-là. Mais tu sais, un vélo électrique, le gars, il n'est pas capable de rouler sur une route secondaire ou dans les rues de la ville avec une automobile.
Mais ça va à 70 km/h, mettre
bien. Alors, c'est ça. Tu t'achètes un vélo électrique, tu as le droit, même si tu as un permis suspendu, parce que ça ne prend pas de permis de conduire pour conduire ça, tu sais. Alors, il faut quand même se déplacer. Puis effectivement, les gens, non seulement ont le droit de travailler, mais ils ont le droit d'aller faire des achats, ils ont le droit de s'amuser, ils ont le droit d'aller voir des spectacles. Donc, ils se déplacent de cette manière-là. Mais un triporteur, c'est pas très vite. Là. Je suis pas sûr, moi, qu'il roule à 70, le bonhomme, avec son véhicule. C'est plutôt utilitaire, où je pense que ça doit être un homme handicapé à 78 ans qui a de la misère à se déplacer. Moi, j'ai beaucoup de clients, des victimes d'accidents qui ont des triporteurs. Puis, il se déplace avec ça pour aller se promener dans le bois, puis pour faire une visite au centre d'achat. Alors, tu sais, ils mettent ça sur une flotte, là, quand ils se déplacent, ou dans une espèce de conoline, là. Puis après ça, ils descendent ça, puis ils vont se promener parce qu'ils sont pas capables de marcher. Alors, je sais pas ce que le monsieur essayait de faire avec sa remorque, là, mais en tout cas, ça a l'air qu'il a montré des signes assez évidents de d'alcoolisme et de dysfonction. Alors, heureusement, on l'a arrêté avant qu'il fasse un dommage.
Il a soufflé le double de la limite permise, donc il était à 0.16. Il était magané. Mais c'est une rumeur qui est non confirmée, Maître Bellemare. Bon, en fait, ça vient de ma tête, là. Mais j'imagine qu'à 8h du matin, il allait chercher des caisses de bière avec sa remorque de 8 pieds par 4 pieds pour passer sa journée.
Oui, mais écoute, pour te rendre à 0.16, l'alcool ouais. dans le sang...
C'est du stock, hein?
Un bon gabarit, là. Faut que t'en aies bu pas mal, là. Faut que t'aies bu, quoi, 5-6 bières, certains.
C'est possible.
Assez vite.
C'est possible.
Ben oui, c'est ça. Alors, tu sais, il a commencé à boire à 4h du matin, 5h du matin. On est dimanche, là. Il y a pas grand monde qui est à 0.16 le dimanche matin à 8h. Là.
Non, exact.
Il y a des gens qui sont à 0.16 à 3h du matin, oui, mais à 8h du matin, t'as moins de chances d'en pogner, tu sais.
Maître Bellemare.
Au soleil, puis 0.16.
Ouais. Maître Bellemare, on va faire une pause très rapide, puis on vous revient tout de suite après.
Marceau, le soir. Reg against le matin.
Boulevard 102A.
Brasse, c'est le fun, ça jase, ça fait parler aussi. Pour quelqu'un qui suit un petit peu moins la politique, c'est quelque chose qui vient m'accrocher pas mal. On a au bout du fil ce matin la vice-première ministre du Québec, Mme Geneviève Guilbeault.
Ça fait déjà quelques minutes qu'on se parle. Je trouve qu'on a établi une belle relation. Donc, j'imagine que vous allez accepter avec grand plaisir de nous dévoiler les montants estimés pour le tramway de Québec. Non, c'est pas le même qu'on va réussir.
Pour ton rattrapage de Rage Against the Machine, rends-toi sur le blvd.fm et l'application mobile.
102.1
Marceau Soir, présenté par Voyage Aquaterra Lévis, Québec. Visitez la nouvelle agence de Québec. Maintenant, deux adresses pour vous servir, boulevard Bastien à Québec et avenue Taniata à Lévis. Marceau Soir, présenté par Voyage Aquaterra Lévis, Québec. Visitez la nouvelle agence de Québec. Maintenant, deux adresses pour vous servir, boulevard Bastien à Québec et avenue Taniata à Lévis.
À Boulevard, on aime ça vous faire plaisir. Puis vous faire fêter. Le 29 septembre, on vous invite au Full Moon Party du Cosmos Laurier. Barbecue, DJ jusqu'à 3h du matin, studio de tattoo mobile, petite bouchée gratuite, dance floor et bien plus. Ce mercredi, soyez à l'écoute de Marceau le midi pour gagner votre table VIP. Oui, vous pourriez être une very important person au Full Moon Party. Le Cosmos et Boulevard 102.1, fiers partenaires de vos soirées festives.
Boulevard 102.1.
Vous envisagez l'épilation définitive? Clinique Viva, la référence à Québec en épilation laser Triton, vous offre leur plus grosse promotion de l'année. Obtenez jusqu'à 40 % de rabais sur vos séances et recevez en plus 100 $ en planifiant votre consultation. Cliniqueviva.com.
Puis ton garçon?
Pas mal occupé. En plus de l'école, il vient de commencer à travailler.
Ah oui? Dans quoi?
Dans un cadre.
Oui, de nouvelles normes encadrent le travail des jeunes grâce à d'importantes modifications apportées à la loi sur les normes du travail. Ce nouveau cadre s'ajoute aux normes minimales établies pour toutes les travailleuses et tous les travailleurs du Québec, qu'ils soient à temps partiel, à temps plein, qu'ils soient jeunes, étudiants ou étrangers. Les normes du travail, bien encadrées pour mieux travailler. Un message de la CNESST.
Terrasse sur le toit, lounge, cour et stationnement intérieur, gym, c'est pas du rêve. Mais bien Quartier-Quartier et ses appartements locatifs prêts pour occupation dès juillet 2024. Plusieurs unités disponibles allant de studio à maison de ville. Ça te plaît? Détails au quartierquartier.ca.
Tomber en panne dans une file de commandes à l'auto.
Ouais, avance!
Aïe, c'est pas l'endroit parfait. Mais pour une bonne mise au point, c'est juste parfait chez Desharnais.
Du 5 octobre au 20 décembre, profitez d'une remise allant jusqu'à 100 $ à l'achat de 4 pneus Michelin sélectionnés. Et de plus, du 25 septembre au 15 octobre, obtenez l'installation gratuite, une offre exclusive .S. Les pneus Michelin, pour une confiance ultime, sur route enneigée et glacée.
Pour le service, la mécanique et vos pneus, Desharnais, c'est juste parfait.
C-A-N-A-C, Canac, mot compte double, 14 points,
c'est
à toi.
Mam, c'est un nom propre, c'est pas accepté.
Tout le monde connaît ça, c'est accepté.
C'est un argument ridicule, ça.
Ce qui est ridicule, c'est les prix chez Canac.
Je le sais, mais ça change rien.
Oui, ça change de quoi? C'est des prix ridicules tous les jours.
Mais ça reste un nom propre.
OK, je vais être bonne joueuse. J'ajoute ER à la fin. C'est pas un nom propre, c'est un verbe.
Canacé. Hein?
Coudon, me semble que je t'ai envoyé à l'école, toi. Ils t'ont rien appris. Canaqué, ça veut dire économiser en achetant chez Canac.
Ridicule.
Cette pub ridicule vous a été présentée par les prix ridicules de Canac.
Prolongez l'été avec le meilleur de la restauration sur Grande Allée. Un bon cocktail, un tartare, une ambiance incontournable, c'est l'atelier. Savourez un repas entre amis ou réservez pour votre party de bureau. Et pour une expérience terre-mer incomparable à Québec, c'est au restaurant Ophélia. Laissez-vous séduire par nos plats soigneusement préparés et notre carte de vin d'importation privée. Venez profiter de nos terrasses couvertes et chauffées. L'été n'est pas fini à l'Ophélia et l'atelier. On se donne rendez-vous sur Grande Allée.
Boulevard 102, 100 % Québec. On vit pour le rock. Boulevard.
Une propre. Une propriété Leclerc Communication.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir. Marceau, le soir. Le soir.
Merci d'être bien branché sur les ondes de Boulevard en ce lundi soir. Les lundis soirs avec Maître Marc Bellemare qui est toujours très occupé. Où vous allez ce soir? Vous êtes encore, vous avez encore des rencontres, de ce que je comprends, d'après l'émission?
Oui, des rencontres en or avec des présentations de films sur des artistes de Québec, dont mon ami Don Darby, qui a 80 ans passé, qui est un sculpteur magnifique.
OK.
Alors, j'ai bien hâte de rencontrer mes amis tantôt, mais après la chronique, évidemment, vous faites... parce que mon devoir, le lundi soir, évidemment, c'est d'être avec toi, mon cher Yann.
Vous faites ça où?
C'est à l'ENAP, sur le boulevard Charest.
Ah, puis...
Pas loin de, du soleil, là, dans ce qu'on appelle le centre-ville encore aujourd'hui, là.
Ouais.
Alors, ça va se passer ce soir à 7h30.
Puis est-ce que c'est ouvert à tout le monde?
Oui, c'est ouvert à tout le monde. C'est à l'ENAP à l'Auditorium. C'est un film qui est présenté par Réjeanne Lamothe, qui a fait un film sur quatre artistes de la région de Québec. Elle les a suivis pendant à peu près une heure, là, puis c'est très, très bon. Alors, les amoureux d'art visuel, ce soir à l'ENAP à 19h30.
Ah, c'est
je serai là.
Ben oui. Allez pas trop vite là, pour vous retrouver là-bas. Là. Faut pas... Est-ce que vous êtes déjà...
Ben, à 7h30 là, du soir, sur le boulevard au coin Charest de la Couronne, là. Il n'y a pas plus de monde qu'à Beauport à 8h le dimanche matin ouais. Pour notre monsieur qui était sous son triporteur.
Je vous pose une petite question. Avez-vous déjà été vérifié sur la route, sur le chemin par la police? Est-ce que les policiers se sont rendus compte que vous étiez l'ex-ministre de la Justice, Maître Bellemare? S'en sont-ils déjà rendus compte?
Oui. Ça m'est arrivé des fois d'être arrêté puis pour des excès de vitesse surtout. Là.
Avez-vous eu votre ticket pareil?
Oui, j'ai eu mes tickets, mais pas tout le temps. Honnêtement, une fois, je m'en suis sorti. Il m'a dit « Faites attention, allez pas trop vite ».
Ah ben.
Alors, oui, ben oui, surtout, ben oui, ils me reconnaissent. Les policiers me reconnaissent, c'est sûr. Et ils me demandent des fois mon permis. Puis des fois, ils me reconnaissent à partir du permis aussi quand ils voient mon nom, parce qu'ils peuvent douter. Mais c'est pas parce qu'ils t'ont vu à TV qu'ils vont te reconnaître, spontanément. Mais, alors toi, est-ce que quand tu parles, on reconnaît la voix de Marceau?
Oui, je pensais que oui, mais finalement, non. Moi, il y a un policier qui m'a arrêté pour me souhaiter bonne fête. Je m'en allais jouer au décaqué sur Chauveau, puis... Je pensais pas avoir enfreint la sécurité routière. Là. Je roulais à une bonne vitesse. J'étais correct. J'ai mis mon signaleur pour tourner à gauche. J'ai rentré en stationnement. Puis, véhicule de police, les flashs allumés. Je dis, bon, qu'est-ce que j'ai fait? Pourtant, j'étais correct. Il me dit, bonne fête, M. Marceau. Je dis, ah, c'est gentil. Là, je me suis dit, hey, ça doit être un auditeur. Là, je dis, comment ça, vous savez que c'est ma fête? Il dit, ben, vous n'avez pas payé votre permis.
Ah, ouais?
Ouais, c'est ça. Ça faisait 3 jours, donc on était rendu le 30 octobre. Ma fête, c'est le 27 octobre. Et on était à 3 jours de non-paiement de mon permis de conduire. Puis il était gentil. Il m'a dit de laisser ma voiture là. D'aller payer, parce que ça fait quand même une couple d'années, là, d'aller payer mon permis de conduire, puis après ça, revenir chercher mon véhicule, mais il ne m'avait pas donné de contravention. Il m'avait juste souhaité bonne fête.
Ah oui?
Oui.
Ah, barnouche. Mais là, comment ça se fait qu'il a su qu'il t'a arrêté et
c'est dans...
il ne t'arrête pas de même? Ouais. C'est marqué sur à partir de ta plaque, il sait que ton permis est plus bon, c'est ça?
Je ne sais pas s'ils ont encore ça, les véhicules de police, là, mais c'est dans le temps où les véhicules de police avaient des œils magiques là, qui lisaient les plaques. Là. Donc, lui, doit m'avoir croisé, l'ordinateur doit avoir sonné, puis a dit, gardez ce véhicule-là, son droit de permis n'a pas été payé. Puis il est arrivé
ça, c'est une espèce de scan qui va chercher sur ta plaque, puis ils savent que tu as quelque chose à te reprocher.
C'est ça fonctionnait bien. Je ne sais pas pourquoi ils ont retiré ça. Il doit y avoir des raisons de l'avoir retiré. Là. Mais c'était dans ce temps-là. T'sais. Mais je trouvais ça très drôle qu'un policier vienne me souhaiter bonne fête jusqu'à temps qu'il me dise « t'as pas payé ton permis
». Ils ont arrêté ça. Mais pourquoi ils ont arrêté ça? C'est efficace. Mais peut-être que ça sonnait trop. Il était écœuré. Il y avait trop de travail.
Oui.
Il y a tellement de monde tout croche dans le chemin.
Oui. Il y avait un policier de la SQ qui m'avait dit que des fois, ça faisait quelque chose de bizarre quand il passait à côté de grillages là, où il y avait des affaires déjà décrites. Des fois, sur l'ordinateur, ça sortait un peu bizarre. Maître Bellemare, on parle maintenant d'un influenceur de la haine qui a obtenu une peine 5 fois plus élevée parce que ce serait un néo-nazi montréalais.
Ah, j'étais tellement content, là. T'sais, écoute, un gars qui a écrit sur des sites néo-nazis partout, un peu partout dans le monde, aux États-Unis particulièrement, puis c'est le juge qui dit « On n'aura pas de sentence bonbon parce que le bonhomme a fait beaucoup, puis c'est pas un homme très, très âgé, là, d'après ce que je vois, là, en tout cas, d'après l'allure qu'il a, il doit avoir quoi, une trentaine d'années, 30-40 maximum, et il a été accusé d'avoir, déclaré coupable d'avoir fomenté la haine contre les Juifs de façon particulière, avec des mots très durs sur les messages qu'il envoyait, et le juge a dit, on n'aura pas de sentence bonbon, OK? On n'aura pas de sentence qui va banaliser la souffrance des victimes de l'Holocauste et de leurs proches, tout en appelant à lutter contre le fléau de la haine. Moi, je trouve que c'est bon. Là. C'est une excellente décision. Et la couronne et la défense s'entendaient sur 3 mois de prison. 3 mois, c'est compliqué. On s'entend-tu que c'est rien? Là?
Mais le juge n'est pas tenu d'y aller avec les propositions de l'entente. Là. Le juge peut faire ce qu'il veut, finalement.
Il n'est pas obligé. Le juge peut s'écarter de la proposition s'il explique sa décision. Et souvent, c'est l'argument pour s'écarter de la proposition entre l'avocat de la couronne et l'avocat de la défense. Parce qu'il y a beaucoup de ce qu'on appelle du plea bargaining. Hein, c'est-à-dire que la défense et la couronne, le DPCP, s'entendent pour dire, OK, il va plaider coupable, mais en échange d'un plaidoyer de culpabilité, ce qui va sauver un procès, on va s'entendre sur 6 mois de prison, par exemple. Comprends-tu? Alors, ça, c'est du plea bargaining. Il y en a beaucoup. Et il y a beaucoup de crimes. Le DPCP dit souvent qu'il n'y a pas beaucoup de ressources. Il manque de monde, il manque de personnel. Fait que souvent, avec l'arrêt de Jordan aussi, quand tu dépasses un certain nombre de mois, tu as peur que les accusations soient cassées. Fait qu'il y a comme des deals qui se font pour sauver la cause, pour éviter qu'il y ait un avortement de procès ou d'accusation. Puis à ce moment-là, il y a un deal qui se fait. Et le juge au procès, normalement, est tenu d'accepter cette proposition-là, sauf s'il considère qu'effectivement, ça n'a pas de bon sens, si la proposition est déraisonnable. Mais ici, là, il n'a pas cassé à peu près le juge. Il est passé de 3 à 15 mois. Alors, il a condamné à plus que 5 fois ce qui aurait le terme de 3 mois qui aurait satisfait le DPCP. Alors, ça prouve une chose. Ça prouve qu'il y a des juges qui ont du culot, puis c'est très bien. Puis moi, ça me rassure parce que je trouve que 15 mois de prison pour un gars qui a craché son fiel sur les Juifs pendant tant d'années, puis qui continue de le faire, puis qui, incidemment, le juge le dit, ne montrait aucun signe de remords, aucun signe de vouloir s'amender, aucun signe qu'il reconnaissait la gravité des gestes qu'il avait posés, les conséquences sur les victimes qui sont la communauté juive, évidemment. Dans ce contexte-là, les 15 mois étaient mérités. Et donc, le juge peut s'écarter, mais dans ce cas-ci, d'aller chercher 5 fois plus, c'est quand même beaucoup. Est-ce qu'il y aura appel de ça devant la cour d'appel? Est-ce que ça va aller plus loin? D'après ce que j'ai compris, le condamné à 15 mois n'était pas très content, puis son avocat avait l'air à montrer des signes comme quoi il allait contester cette décision-là à cour d'appel. Mais moi, je trouve que c'est bon. Puis ça envoie un message au DPCP aussi, le directeur des poursuites criminelles et pénales, les avocats de la Couronne. Arrêtez d'être clément, puis arrêtez de proposer des peines bonbons de 3 mois dans des cas où c'est pire que ça. Puis le jugement est important, à mon sens, parce que de la haine et de la médisance et de l'agressivité sur les réseaux sociaux, là où a sévi notre ami qui a été condamné à 15 mois de prison, il y en a plein, tu le sais, hein? Ouais. Les réseaux sociaux, c'est ça. Hein?
Est-ce que ça devient automatiquement jurisprudence? Parce que ça doit être...
Oui, je pense que oui. On peut parler d'une jurisprudence. Une jurisprudence, c'est un cas particulier. C'est une question nouvelle. C'est un jugement nouveau. Une décision qui s'écarte de ce qu'on est habitué de voir. Parce que ce qu'on est habitué de voir, c'est la couronne de la défense, c'est un peu une machine à saucisse. Hein? La couronne de défense s'entend, le juge approuve, on passe à d'autres choses. C'est plus simple comme ça. Mais dans ce cas-ci, le juge a montré qu'il n'y avait pas d'ouverture pour approuver les 3 mois. Puis il ne l'a pas envoyé dire aux deux avocats. Il l'a dit de façon très, très solide. Et j'espère que même à la limite, si ça va en cour d'appel, ça pourrait peut-être aider dans le sens que la cour d'appel sera appelée à se pencher non seulement sur la question de droit, à savoir si le juge pouvait dans ce cas-ci s'écarter de la proposition des deux avocats, mais aussi si 15 mois, fondamentalement, c'est acceptable comme peine pour un gars qui crache ses Juifs, sa haine depuis tant d'années et qui n'a aucun signe de remords. Alors, sur les deux volets, je pense que ça pourrait être intéressant que la Cour d'appel se prononce, parce qu'on sait, la Cour d'appel, c'est le plus haut tribunal du Québec, une quinzaine de juges qui rendent des décisions importantes, et c'est ça qui établit le droit. Et c'est ça qui fait finalement la jurisprudence au Québec.
Est-ce que le juge peut aller s'immiscer dans l'entente qu'il y a eu entre l'avocat de la Couronne puis l'avocat de la Défense? Parfois, bon, il y a 75 accusations, puis là, finalement, ben, si tu plaides coupable, tu vas plaider coupable à ceux les plus sévères, donc à 15, puis après ça, on va dire, ben là, tu vas faire, c'est 7 ans de prison. Fait que là, toi, t'arrives, tu fournis le dossier, le juge reçoit ça. Vous êtes de l'autre côté, vous êtes entendu avec l'avocat de la Couronne. Est-ce que le juge peut défaire tout ça, dire « Non, attendez un peu, là, moi, ça, je l'aurais gardé, puis lui, il plaide coupable, mais j'aimerais mieux aller à procès. » Il peut-tu faire ça? Il peut-tu détricoter ce que les avocats ont tricoté?
Bien, ça dépend. Si c'est un deal qui a été fait sur, par exemple, une douzaine d'accusations, et la Couronne décide d'en abandonner 10, il en reste 2, et pour ces deux-là, le juge va être appelé à entériner une proposition de 6 mois de prison, par exemple. Le juge ne peut pas vraiment avoir de contrôle sur les accusations auxquelles la Couronne a renoncé. Okay. Si la Couronne décide d'abandonner les accusations, ben c'est la Couronne qui prend la décision, puis le juge peut simplement constater ça. Il ne peut pas continuer un procès sur des accusations qui sont abandonnées par la Couronne. Mais dans ce cas-ci, c'est pas ça. Il n'y avait pas 7-8 accusations qui étaient abandonnées. Il y avait vraiment ça, un dossier sur lequel l'individu était coupable. Et là, c'était sur la détermination de la peine. À partir du moment où le crime a été commis, à partir du moment où on sait que ce gars-là a commis un crime haineux contre les Juifs, qu'est-ce que ça mérite comme peine? Et c'est là-dessus que le juge n'a pas voulu suivre la recommandation commune et de loin en venant à une conclusion qui était 5 fois plus sévère. Moi, je trouve que c'est fantastique, je trouve ça très bon. Puis ça peut avoir un impact parce que c'est sûr que médiatiquement, tout le monde en parle. C'est quelque chose qui a été très, très couvert au cours des derniers jours et je pense que ça va avoir un effet parce qu'on sait que dans les règles de détermination de la peine dans le code criminel, il y a l'exemplarité, c'est-à-dire l'aspect dissuasif. Est-ce que la peine peut avoir un effet dissuasif en ce sens que ça peut, de par sa force, la peine à laquelle l'individu est condamné, peut avoir un impact sur ceux et celles qui pourraient être portés peut-être à commettre ce genre de crime. L'exemplarité, c'est-à-dire l'impact que ça a dans la population. Mm-hmm. Et ça fait partie des critères que le juge doit suivre pour déterminer la peine. Et dans ce cas-ci, je pense qu'il n'y a pas manqué son coup. Là. Parce que ceux qui sont sur leur clavier puis aujourd'hui puis qui sont en train d'écrire des cochonneries contre ci, contre ça, contre des crimes raciaux puis des propos haineux qui incitent à la haine, à la violence, au rejet d'une communauté à cause de sa religion, à cause de ses caractéristiques ethniques ou autres, c'est considéré comme des crimes haineux. Et ça, c'est tout à fait inacceptable. Il faut arrêter ça. Puis il y en a beaucoup trop sur le web. Souvent, il y en a qui vont sévir sur le web, on ne les pognera pas ou on ne saura pas. Des fois, c'est des noms cachés. Des fois, ils ne sont pas affichés, mais lui, il y allait assez ouvertement.
Autre dossier, puis je pense que c'est important d'y revenir régulièrement sur ce dossier-là, parce que dans nos chroniques, parfois, ça arrive, que ce soit par texto ou courriel, des gens qui nous écrivent puis qui nous disent « bon, je suis victime d'agression sexuelle, ça s'est passé dans les années 70, 80, 90, est-ce que je peux encore aller rencontrer les policiers puis être pris au sérieux? » La réponse, c'est oui. Il n'y a pas de délai pour ce qui est des agressions sexuelles. Quand ça s'est passé des années 60, 70, 80, 90, 2000?
Il n'y a pas de délai. Moi, je travaille sur un recours collectif actuellement contre le diocèse de Québec. Là, ça fait déjà 2 ans que c'est déposé. Et le groupe qui est défini dans le recours collectif, c'est les victimes de prêtres rattachés au diocèse de Québec depuis 1940. Ça veut dire qu'on va rechercher 83 ans en arrière. Alors, ça veut dire quelqu'un qui a été abusé en 1948, en 1950, par un prêtre, ouais. Ou quelqu'un qui relevait du diocèse de Québec peut s'intégrer au groupe. Et je travaille là-dessus actuellement dans un recours collectif avec Alain Arsenault, qui est à Montréal, qui est un expert dans le domaine des recours collectifs, surtout de nature sexuelle. C'est lui qui est au dossier aussi de diocèse de Trois-Rivières, là, dont Dominique Morin est le représentant. Mm-hmm. Alors, il n'y a pas de délai pour poursuivre et on peut même poursuivre la succession d'une personne. C'est-à-dire, oui, tu peux poursuivre la succession d'une personne. Ça veut dire, admettons qu'une femme a été abusée par un de ses frères ou par son père ou par un voisin. Pendant toute sa vie, cette femme-là a souffert. L'individu, finalement, sur son lit de mort, reconnaît... T'sais, dans les dernières années, dans les derniers mois de vie, là, ça a l'air que les gens sont bien placoteux. Alors, c'est l'agresseur.
Ils ont peur d'aller en enfer, M. Belmont.
Je ne sais pas ce qui se passe, mais probablement qu'en fin de vie, peut-être sachant qu'il n'y a pas de... Tu ne seras jamais blâmé, tu t'en vas puis tu laisses toute ta crotte derrière toi. Là. Peut-être que c'est ça qui fait que les bandits sont plus placoteux. Alors, sur son lit de mort, l'individu va dire « Oui, je m'excuse de t'avoir abusé de petite fille pendant tant d'années, puis tout ça. » Alors, la petite fille a un recours, mais maximum 3 ans après le décès. C'est pas éternel, parce que tu comprends bien que si tu attends, si tu poursuis la succession d'un bonhomme qui t'a abusé il y a 30 ans, ben là, il est mort il y a 30 ans, ça devient compliqué. Ça se peut que la succession soit réglée. C'est sûr que ça prend du temps à régler une succession, mais il y a des limites. Là. Mais à un moment donné, tu ne peux pas tout démancher ça. Les héritiers ont touché leur part, ils ont dépensé cet argent-là, la succession est réglée, tout est correct, les papiers sont faits, puis tu ne peux pas éternellement revenir. Mais dans les 3 ans, tu peux le faire. Ça veut dire que si vous avez été victime d'abus sexuels et que la personne, l'abuseur est décédé, vous avez la possibilité de poursuivre la succession pour obtenir un dommage.
Est-ce qu'il doit avoir...
Ça peut causer un problème au niveau de la preuve.
Ben voilà, c'est ça.
Faut que tu sois capable de prouver que c'est lui qui t'a abusé. Tu ne seras pas cru nécessairement uniquement sur ce que tu dis, tu sais. faut trouver des corroborateurs. Des corroborateurs, c'est des gens qui ont été témoins. Si ça peut être une autre victime, une co-victime. Une petite fille est abusée, sa sœur l'a été aussi. Mais là, ils peuvent faire un recours commun parce qu'il faut prouver, parce que l'individu n'est plus là pour admettre. Mais des fois, ça peut être une lettre qui est écrite quelque temps avant sa mort. Ça peut être sur son lit de mort, ça peut être à l'hôpital, les confidences qu'ils font aux proches, aux parents, aux amis, qui vont vous permettre de faire la preuve devant le juge qu'il y a un abus sexuel. Et si c'est prouvé, à ce moment-là, le juge peut condamner la succession à payer un certain montant d'argent. Puis, en autant que votre recours est intenté dans les 3 ans, vous allez pouvoir toucher la somme à même la succession. Vous deviendrez à ce moment-là une espèce de créancier de la succession, puis vous serez payé sur les sommes que l'agresseur aura laissées. Mais encore faut-il qu'il y ait de l'argent un peu. Là. S'il meurt puis il est sur la paille, mais là, ça ne donne rien de le poursuivre parce que tu n'auras pas une scène, tu ne seras pas capable d'exécuter ton jugement puis d'obtenir le paiement de la somme que le juge t'aura donnée. Alors, comme dans n'importe quel recours, ce n'est pas parce qu'il est mort qu'il est plus riche. Là. Non, alors, comme ça. Dans n'importe quel recours, il faut être capable de prouver que la personne aussi a des sous pour être capable que vous soyez payé éventuellement parce que un jugement, ça, tu as 10 ans pour exécuter ça. Ça veut dire qu'une fois que tu as le jugement, tu as 10 ans pour faire des saisies puis pour obtenir ton paiement. Poursuivre une succession, c'est pas aussi simple que poursuivre une personne vivante qui a un bateau, un 4 roues puis un chalet. Il y a des biens puis on est sûr d'être payé.
Maître Bellemare, puis ce genre de remarques-là arrive souvent à la station aussi quand on parle de victimes après plusieurs années, des gens qui disent ben moi j'ai été victime, puis on se rend compte que l'événement est arrivé v'là 20 ans. Souvent les gens disent mais pourquoi vous dénoncez pas tout de suite? Puis faut juste comprendre au niveau psychologique. Ben de un, on n'est pas psychologue, vous et moi, là. Vous avez la chance de côtoyer des gens qui peuvent vous dire ben voici pourquoi je n'ai pas dénoncé avant. Mais le fonctionnement de l'être humain est bien différent. Il y en a qui vont réagir tout de suite, il y en a d'autres qui vont déclencher à 30 ans en disant écoute, moi, ça fait 30 ans de ça, puis je réalise que j'ai été une victime d'agression sexuelle, ça m'a causé des problèmes toute ma vie, et là, je suis prêt à porter plainte. Ne jamais mettre ça sur le dos des victimes, le temps que ces victimes-là prennent pour porter plainte. Elles ont le droit de porter plainte quand elles le désirent. Je ne comprends pas pourquoi les gens se posent constamment des questions. Mais pourquoi ils n'ont pas porté plainte le jour même? Pourquoi ils n'ont pas porté plainte une semaine après? Ben parce que c'est des victimes. Puis on ne peut pas les obliger à faire quelque chose. Ce sera le temps qui déterminera. Ce sera eux, en fait, qui détermineront le temps qu'elles prendront pour porter plainte, que ce soit au criminel ou au civil.
Oui, c'est ça. Puis il y a beaucoup de honte qui est rattachée à ça. Écoute, il y a des recours collectifs. Je me souviens, moi, dans le cas du recours collectif contre les rédemptoristes, c'est Frank Tremblay de Québec qui était le représentant, qui est un de mes amis, qui est un gars tout à fait exceptionnel, qui a été le représentant du groupe de victimes contre les pères rédemptoristes. C'est un recours collectif qui a très bien réussi à Québec grâce à lui, grâce à Frank Tremblay. Et il me racontait à un moment donné qu'il y a des gens qui ne voulaient pas réclamer, même si le jugement est rendu, puis même si les gens sont... font partie du groupe. Ils ont juste à se présenter, à donner quelques explications. J'ai séjourné, moi, chez les rédemptoristes, comme pensionnaire de telle année à telle année, j'ai été abusé par tel prêtre, pour toucher un chèque, là. Mais ils n'y vont pas. Ils n'y vont pas parce qu'ils ont honte de ça. Ils veulent pas que ça soit su, même dans leur famille, qu'ils ont été abusés sexuellement. Il y a beaucoup de honte. Il y a des études américaines qui ont démontré que chez les hommes, surtout, ça peut prendre jusqu'à 40 ans avant que la personne accepte de dire qu'elle a été victime d'agression sexuelle. Chez les hommes, c'est pire, parce que les hommes sont plus honteux de ça que les femmes. Et ça fait partie du pattern des victimes. Et il y a de la honte, de la culpabilité aussi. Il y en a qui disent, c'est peut-être de ma faute, c'est peut-être moi qui c'est par mon comportement que j'aurais peut-être pu m'habiller autrement, ou j'aurais peut-être pu parler autrement, ou j'aurais peut-être pu avoir d'autres amis. Puis il y a de la culpabilité puis de la honte. Ce sont les deux principales raisons qui font obstacle aux dénonciations spontanées et qui font que ça peut prendre quelques décennies même. Puis il y a des gens qui ont été abusés sexuellement, des hommes surtout, que jamais de leur vie ils vont le dire, là. Alors, c'est un problème qui est profond.
Oui. Maître Bellemare, pour des dossiers de SAAC, d'IVAC, de CNESST, on vous rejoint comment?
On va sur bellemareavocat.ca sur le web, et puis on peut laisser un message, on peut laisser un message téléphonique, on peut laisser un message sur le site, on vous rappelle généralement dans les 24 heures.
Bon lundi soir, bonne activité, puis on se rejoint la semaine prochaine.
Merci beaucoup, Yann. Bonne semaine à toi.
Merci beaucoup. Bye-bye. Maître Marc Bellemare, à qui on a le plaisir de jaser à chaque lundi. Hey, je vous laisse là-dessus. Les podcasts s'en viennent dans les prochaines minutes. Puis moi, ben, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 11h en compagnie de Pascal Cévé puis de mon chum Tom pour ce qui est de Marceau le midi. Salut. Bye-bye.
Marceau le soir.
Marceau Soir, présenté par Voyage Aquaterra Lévis, Québec. Visitez la nouvelle agence de Québec. Maintenant, deux adresses pour vous servir. Boulevard Bastien à Québec et avenue Taniata à Lévis.
Mercado.fm, c'est la nouvelle adresse qui regroupe une tonne d'offres locales à prix imbattable. Découvrez une multitude d'entreprises et marchands québécois. Cliquez sur nos offres pour en connaître davantage et profitez du meilleur prix chaque fois.
Obtenez deux admissions générales d'une valeur de 32 $ pour 16 $ au Canyon Sainte-Anne ou une expérience thermale d'une valeur de 68 $ pour 34 $ au Strom Spa Québec.
Un marché de proximité où l'achat local est une priorité. Mercado.fm. Découvrez, cliquez, profitez.
Une gamme de véhicules hybrides, c'est comme un groupe de musique. La Pacifica hybride tient l'ensemble. Elle unit la famille. Le Jeep Grand Cherokee 4XE, c'est le luxueux. Le Jeep Wrangler 4XE, c'est l'iconique, toujours hors norme. Le Dodge Hornet RT, c'est le petit nouveau VUS bien excité. Et les quatre réunis dans la même cour, ça sonne vraiment bien. Nos modèles phares existent en version hybride rechargeable. Plusieurs sont même prêts pour livraison immédiate chez vos concessionnaires Chrysler, Dodge, Jeep et Ram.
Gagner une cuisine de 75 000 $ n'aura jamais été aussi facile grâce à Armoire PMM. Faites simplement faire vos plans 3D gratuitement et sans engagement. Et vous pourriez gagner une cuisine d'une valeur allant jusqu'à 75 000 $ Visitez armoirepmm.com.
Boulevard.
102.1.
Les 30 septembre et 1er octobre prochains, c'est le Marathon Bénévole de Québec. Vous habitez près du parcours où vous voulez encourager les coureurs? Prévoyez vos déplacements. Consultez le ville.quebec.qc.ca/marathon pour tous les détails. Un message de la Ville de Québec.
Montre à tout le monde que ta bougie fait des étincelles. Et deviens aviseur mécanique ou conseiller en pneus dans l'une des succursales de Desharnais Pneus et Mécanique. On va te faire une offre juste parfaite. Parce que travailler chez Desharnais, c'est juste parfait.
RCM réalise des projets de construction modulaire au Canada et aux États-Unis. Nous venons d'ouvrir une nouvelle place d'affaires à Lévis. Tu as de l'expérience comme dessinateur ou chargé de projet, veux faire du télétravail et être en congé les vendredis après-midi? Postule au carrière.fr.
Vous cherchez votre prochaine destination coup de cœur à Québec? Découvrez le magnifique restaurant de la distillerie Arsenal. Avec son concept spectaculaire, digne des plus grandes villes, un menu succulent et une programmation qui vous en fera voir de toutes les couleurs, le restaurant de la distillerie Arsenal vous fera vivre une expérience unique en plein cœur de la ville de Québec. Pour passer un moment inoubliable en famille ou entre amis, réservez votre place dès maintenant au distilleriearsenal.com.
6 heures du matin, le cadran sonne. J'ouvre la radio. Trop de musique. Je change de poste pour entendre parler.
Ah oui, encore des taxes, ben oui.
Ça fait que chialer. Du coup, j'ai fermé la radio. Ma copine me dit.
Voyons, pourquoi t'as fermé la radio?
Je lui ai dit, c'est pas pour moi. Au travail, j'ai parlé de mon problème à Jean Steve. Il a toujours de bons conseils.
10% de ta paye, drette dans un CELI.
Il m'a parlé d'une radio.
Connais-tu ça, Boulevard 102?
Je lui ai dit que non. Il m'a dit.
Non, faut que t'écoutes ça.
Bref, maintenant, j'écoute Boulevard 102. Merci, Jean Steve.
Boulevard!
Boulevard! 102.1. Boulevard 102.1.
Histoire d'entrepreneur est présentée par La Folle qui court. C'est moi ça, à la tête de l'entreprise qui fabrique les meilleurs leggings pour tes activités physiques. Ils sont confo, ils sont doux, ils sont tout simplement parfaits. Puis en plus, ils sont fabriqués ici, à Québec. Vous allez avoir tous les détails sur lafollequicourt.com. Comment vous parler de cet invité qui n'a même pas besoin de présentation, Dominic Brown, anciennement de Binox, fondateur de Binox et propriétaire actuel de Chocolat Favori. Il est parti en voilier pendant plusieurs mois avec sa famille, des leçons de leadership. Il en a acquises et il nous en parle d'ailleurs dans cette entrevue-là où je l'ai trouvé tellement généreux. J'en dis pas plus et je vous souhaite une bonne écoute.
Le gros trip de ma vie, c'est, ça a toujours été de combattre contre le statu quo.
Histoire d'entrepreneur.
J'aime ça, développer un concept novateur, investir là-dedans, puis voir les gens qui trouvent leur compte dans le concept.
Avec Joanie Fortin.
Je dis pas qu'il y a pas eu des moments on va en parler.
Présenté par La Folle qui court, l'entreprise derrière le legging parfait pour les activités physiques. Fabriqué à Québec en plus. LaFolleQuiCourt.com.
Dominic Brown.
Salut.
Je suis vraiment contente de te rencontrer aujourd'hui. Ça fait longtemps.
Oui, effectivement.
Puis je suis contente également que tu me dises que tu es stressée.
Oui, quand même un petit peu, là, parce que là, c'est comme une entrevue style à cœur ouvert. Alors, ça fait un petit moment que j'en ai fait, mais je suis bien content d'être là aujourd'hui.
Bien, on va te présenter comme il se doit, président de Chocolat Favori. Bien, moi aussi, je suis stressée, Dominique. Fait que ça fait comme deux, trois nuits que je viraille. Je fais comme, ah, je pourrais lui poser cette question-là, parce que je suis vraiment, vraiment, vraiment heureuse de te recevoir et pouvoir avoir cette belle jasette-là avec toi aujourd'hui.
Merci.
Puis, pour commencer l'entrevue, je suis remontée dans nos conversations Messenger. Je suis remontée dès le début. Je me suis dit, hey, à quand ça remonte la première fois qu'on s'est vraiment, vraiment parlé officiellement avec un écrit? Puis je me demandais à quand ça remontait. Puis je vais te présenter ceci, puis je veux que tu m'en parles. Tu m'avais envoyé une invitation pour l'ouverture officielle de la succursale Chocolat Favori de Neuchâtel.
Ah oui!
C'était-tu le premier?
Bien, ça, c'était le premier avec le nouveau concept de Chocolat Favori. Bien oui! Hey, mon Dieu! Et là, tu rejoins loin dans mes souvenirs.
Hey, ça date d'il y a 10 ans. C'était en 2013.
Oui, oui. C'est il y a quasi exactement 10 ans. Oui. Hein? C'est complètement fou. Oui, en 2013, qu'on avait lancé, ça faisait un an à ce moment-là, à peu près, là, que j'avais fait l'acquisition de Chocolat Favori. Puis là, c'était là qu'on allait lancer toutes les nouveautés, là, la nouveauté de concept, le nouveau logo, tout ça, avec la chocolaterie de Neuchâtel, qui a été évidemment le succès qu'on connaît puis qui nous a amené jusqu'où on est aujourd'hui.
Et puis, justement, je veux qu'on fasse le tour, bien, non seulement de l'entreprise pour laquelle tu es à la tête en ce moment, mais une des raisons pour lesquelles je voulais te rencontrer, c'est vraiment l'ensemble de l'œuvre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui te connaissent uniquement de par Chocolat Favori, mais ce qu'il faut savoir, c'est que tu as été...
Je suis un has-been du jeu vidéo.
Ah, exactement. Ouais. Tu es un chef d'entreprise depuis l'année 2000. Hein? C'est en 2000 que tu avais fondé Binox, c'est
oui,
ça?
Oui, exactement. En fait, c'est en 2000 que je m'y suis mis à temps plein, en fait. Parce que moi, j'ai la fondation de Binox, moi, je me suis incorporé en 96, alors j'avais 16 ou 17 ans à l'époque. Puis après ça, je me suis mis à faire toutes sortes de différents jobs. J'ai travaillé brièvement dans le jeu vidéo comme employé. Et c'est en 2000 que j'ai décidé de lâcher tout autre travail et de me consacrer à 100% à Binox.
Mais quand tu t'étais incorporé à 16-17 ans, t'étais-tu dans le jeu vidéo ou tu faisais un peu n'importe quoi?
Ah, bien, le jeu vidéo était un intérêt marqué. Ouais. C'était définitivement Binox avait été incorporé pour faire du développement de jeux vidéo. Ça avait été quelque chose qui m'avait toujours passionné, qui était un rêve de vie pour moi. C'était quelque chose que je voulais faire un jour. Alors, j'avais incorporé l'entreprise, mais là, à ce moment-là, évidemment, je ne pouvais pas m'y mettre à temps plein. Puis là, avec le temps, entre autres, j'ai été renvoyé de l'école. Alors ça l'a aidé à libérer du temps.
Okay. Et comment alors, ça, t'as été renvoyé de l'école?
J'ai été renvoyé de l'école parce que j'allais pas à mes cours. Je passais tout mon temps, en fait, à apprendre mon futur métier là, de programmeur de jeux vidéo à ce moment-là. Puis il n'y avait pas de programme scolaire là, à ce moment-là pour apprendre le métier. Donc, je passais tout mon temps sur un petit quelque chose qui s'appelait Internet, qui avait commencé à l'époque. Hein, ça me rajeunit pas hein, de dire ça. Mais fait que j'ai tout appris mon métier là et j'ai finalement obtenu un emploi dans un petit studio de jeux vidéo de Québec qui a finalement déménagé à Montréal. Mm-hmm. Puis c'est au moment où ils ont déménagé à Montréal que je me suis dit, ça y est, moi je reste à Québec, je crois dans le potentiel de la ville puis on fonce avec ça.
Et dis-moi, est-ce que tu crois que c'est justement par les entreprises comme Binox, comme Ubisoft aussi, qui se sont installées à Québec et au Québec, qu'il y a des programmes qui se sont développés? Est-ce que tu penses que le système scolaire, justement, s'est adapté à cette demande-là en raison d'entreprises qui se sont développées?
Bien oui, forcément, parce qu'en fait, l'industrie du jeu vidéo, tu sais, on parle beaucoup des crises de main-d'œuvre actuellement, mais l'industrie du jeu vidéo a toujours été dans une pénurie de main-d'œuvre et est arrivé un petit peu comme un cheveu sur la soupe. C'est développé beaucoup plus rapidement que les programmes scolaires pouvaient le faire à l'époque. Alors, à ce moment-là, les studios de jeux vidéo, Ubisoft, Binox au début, moi, mes anciens professeurs en technique informatique sont venus suivre nos programmes de formation à l'interne chez Binox pour ensuite retourner au cégep pour créer des concentrations techniques en programmation de jeux vidéo. Alors, effectivement, il y a eu un gros transfert de connaissances. Puis ça l'a beaucoup, beaucoup aidé. Là, après ça, ces programmes-là ont fait des petits dans tout le système scolaire québécois. Évidemment, il y a de plus en plus de studios qui se sont installés, autant à Québec qu'à Montréal. Puis là, ce qui est beau, c'est que dans les dernières années, bon, moi, depuis 10 ans, je n'ai plus aucun contact ou presque à part comme simple utilisateur de jeux vidéo avec cette industrie-là. Mais je vois tous les différents studios indépendants qui sont sortis de ça. Au début, on avait des très, très gros studios. C'est bien d'avoir des gros studios. Il y a des belles carrières qui se développent. mais ça a certaines limitations. Puis d'avoir toutes sortes de petits indépendants qui se sont créés, qui ont créé leur marque, qui ont développé leurs propres produits, bien là, ça te fait un écosystème qui est beaucoup plus riche puis beaucoup plus diversifié puis qui va être moins dépendant éventuellement des subventions qui sont données par le gouvernement.
Et là, parle-moi, bon, Binox a évolué. Pendant combien de temps tu as été à la tête de Binox?
Pendant 12 ans. Au total. Donc, de 2000 à 2005 comme indépendant. En 2005, j'ai vendu à la compagnie qui est connue aujourd'hui comme le nom d'Activision Blizzard. Donc, c'est une des plus grosses entreprises dans le monde. J'ai vendu en 2005, puis je suis resté un autre 7 ans après au sein de l'entreprise et je suis parti en 2012. Alors, à ce moment-là, je pense qu'on avait au-dessus de 500 employés. Donc, on était parti de 6 à 515, là, si je me souviens bien.
Puis quand tu te fais acheter comme ça, qu'est-ce qui se passe quand tu dis que tu es resté au sein de l'entreprise? Ton rôle, c'était quoi?
En fait, mon rôle, c'est de piloter la gestion au quotidien, mais surtout tous les plans de croissance de l'entreprise. Donc, quand on a été acquis, on était seulement 30 employés. C'était une petite boîte relativement. Et à ce moment-là, on avait été acquis pour continuer à faire ce qu'on faisait. Il n'y avait pas nécessairement de plan de croissance. Puis moi, je pensais qu'on pouvait vraiment amener ça encore plus loin. Donc, j'ai proposé un premier plan de croissance à mes nouveaux patrons à ce moment-là. Ils ont accepté. Ça nous a amené jusqu'à 70, si je me souviens bien. Après ça, on a lancé une nouvelle division de test. On a pris une croissance jusqu'à 3 projets de développement en même temps. Puis tout ça nous a amené progressivement jusqu'à au-dessus de 500 là, dans la région de Québec.
Wow! C'est vraiment impressionnant. Et c'est quoi être plus le patron de l'entreprise que tu as fondée? Comment tu as vécu ça? Ça a été un enjeu ou pour toi, ça s'est fait naturellement parce que tu étais prêt, parce que tu étais rendu là?
Bien, je pense que pour moi, ça s'est fait naturellement parce que l'acquisition... les acquisitions vont se passer d'une façon très, très différente selon la personne ou le groupe qui acquiert l'entreprise puis son plan aussi qu'il veut faire avec l'entreprise. Alors nous, dans notre cas, c'était une compagnie, c'était une très, très grosse compagnie californienne, mais qui nous achetait pour ce qu'on faisait de bien. Et il n'y avait aucune espèce d'envie de changer le concept ou la direction. C'était une compagnie qui était reconnue comme ça, qui achetait un studio parce qu'il était bon, parce qu'il avait développé une formule gagnante, puis il voulait poursuivre la formule. Fait que moi, essentiellement, j'ai continué à rouler comme j'ai toujours roulé l'entreprise comme si c'était la mienne, en proposant des plans de croissance, puis en livrant mes budgets, puis en livrant mes affaires. Donc, moi, j'ai jamais eu l'impression que cette entreprise-là n'était plus la mienne. Mm-hmm. Tu sais, il y a des années où je pense que je parlais à mon boss, dans le fond, à l'époque. Je pense que j'y parlais une fois par année. Alors, c'est pour donner un peu une idée à quel point j'avais une latitude dans ma gestion de tous les jours. Fait que je me sentais encore très, très, très entrepreneur.
Et là, à partir de quand tu as commencé à penser à la suite? Parce que, est-ce que tu le savais que tu restais 7 ans ou, c'est d'une année à l'autre, tu disais, c'était-tu une entente qui était écrite et officielle ou à un moment donné, tu t'es dit, bon, ben j'ai peut-être fait le tour, je vais passer à autre chose? Et bien, comment t'en es venu justement à vouloir t'en aller vers le domaine... Le domaine du chocolat. Mais c'est ça, la transition entre Binox. Je pense qu'il y a eu une certaine... pause.
Effectivement.
Par la suite, il y a eu le chocolat lait.
Oui, tout à fait. Bien, écoute, quand j'avais vendu, effectivement, je m'étais engagé pour un maximum de 5 ans au sein de l'entreprise, qui m'amenait jusqu'en 2010. Oui. En 2010, j'ai finalement, un peu malgré moi, décidé de renouveler pour un autre 2 ans. Finalement, quand on est arrivé à la fin 2012, mes patrons à l'époque voulaient me garder, mais moi, je venais de vivre 2 ans, pas de croissance, puis on était plus dans de la gestion au quotidien. Puis moi, la gestion au quotidien, ça m'ennuie vite. J'avais besoin de nouveaux défis. Ouais. Alors, j'ai décidé de quitter l'entreprise. Et à ce moment-là, j'avais fait l'acquisition quelques mois auparavant de Chocolat Favori. Et moi, cette acquisition-là, au départ, c'était plus un projet d'investissement. Hein. C'était quelque chose qui allait être un petit peu sur le side, comme on dit, tu sais. Puis j'allais regarder ça, puis c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup, mais sans plus. J'avais pas de grand projet
pour Chocolat Favori. C'est quoi Chocolat Favori à l'époque? C'était... Parce que là, on connaît les succursales, mais c'était quoi à l'époque, Chocolat Favori?
Exact. Bien, Chocolat Favori, à l'époque, écoute, c'était 3 chocolats. À ce moment-là, il y était 3 chocolateries. C'était dans des bâtiments ancestraux qu'on a toujours aujourd'hui. Donc, un à Lévis, un à Cap-Rouge et un à Charlebourg. Ils venaient juste d'ouvrir celui à Cap-Rouge à l'époque. Et la production de chocolat se faisait au deuxième étage de la bâtisse de Lévis. Alors ça, c'est la compagnie que j'ai achetée à ce moment-là. Oui. Il y avait 50 actionnaires. C'était très, très familial. Là. Tu sais, tout le monde du comité amis en magasin, le livreur, tout le monde était actionnaire de Chocolat Favori. Oui. Alors moi, j'ai racheté en fait l'ensemble des actionnaires d'un coup. Il y avait un désir de la part de la présidente, là, qui avait Christine, qui avait mené ça d'une main de fer pendant des années. Puis elle n'avait jamais été présidente à temps plein. Elle avait toujours maintenu une job au gouvernement. Et là, elle était rendue fatiguée. Elle voulait passer à autre chose. Puis elle réalisait que ce n'était pas elle qui allait amener l'entreprise à un autre niveau. Alors moi, je suis arrivé à un bon moment. J'ai fait cette acquisition-là. Mais quand j'ai quitté Binox, pour moi, ça ne m'a même pas traversé l'esprit que j'allais retourner chez Chocolat Favori, là, ou j'allais m'occuper de Chocolat Favori. Okay. Pour moi, j'allais prendre un peu de vacances, puis après ça, j'allais retourner dans le milieu de la technologie. C'était comme ça que je voyais ça. Oui. Mais j'avais une entente de non-compétition. Alors, je ne pouvais pas retourner en technologie pendant une durée d'un an, suivant mon départ. Okay. Et au début, je m'étais dit naïvement, ça va être faire un an de vacances,